Bon, alors reprenons. Donc, si vous avez des choses que vous n'avez pas vues ou dont vous pensez que je n'ai pas assez parlé à l'intérieur de cette réflexion préliminaire sur l'ensemble des choses qu'on va devoir manipuler, hein, y a aucune conclusion là-dedans. Il y a juste tout ça, va falloir s'en occuper tout le temps. Et pas se mélanger des pinceaux avec, qui est quelque chose qu'on voit dans les vrais systèmes, malheureusement. Alors, regardons juste, pour démarrer, le temps en physique. Le temps en physique, est-ce que le temps est continu ou discret? Ben, ça dépend des physiciens, déjà. Quand vous discutez aux physiciens classiques newtoniens, ils vous disent le temps est continu, il n'y a pas de problème. Alors, quand j'en discute avec Serge Haroche, il dit non, c'est, on ne sait pas. Nous, on représente le temps de façon beaucoup plus... Ça dépend. Quand vous discutez avec les gens de la théorie des cordes, ils vous disent, de toute façon, le temps, ça n'existe pas, c'est une propriété émergente dans un espace à des tas d'autres dimensions. Donc, soyons modestes, on ne sait pas si le temps est continu ou discret, il faut s'y faire. Et chacun des physiciens qui pense quelque chose vous dit que le discret est une approximation du continu qui fonctionne très bien, ou l'inverse. D'accord ? Bon, donc, essayons pas de résoudre cette question. Les instants ont-ils une épaisseur ? Ah, quand on regarde ce que c'est qu'une horloge... La réponse est oui. Une horloge, ça va mesurer des phénomènes physiques, mais ça mesure des courbes de probabilité, et ça mesure, et l'incertitude vient de la largeur de la courbe de probabilité. Nous ne connaissons le temps que par des mesures discrètes. Nous ne connaissons pas le temps par des mesures continues. Et dans les mesures discrètes, l'instant a aussi une épaisseur, et ce sont des moyennes statistiques. Donc ce n'est pas si simple, même en physique. Peut-on agir en temps zéro, ce qui va nous occuper beaucoup? La réponse est, ça dépend de la physique. Oui, dans la newtonienne. Oui, dans la quantique, ça dépend ce qu'on regarde, et puis pas forcément dans les autres. Comment comparer le temps? Alors, un jour, je ferai un cours sur la mesure du temps, l'histoire de la mesure du temps. C'est absolument merveilleux. Il faut savoir que la mesure du temps, c'est tout récent, hein, que les villes dans les pays n'ont les mêmes heures que depuis le télégraphe et le chemin de fer, que c'est le chemin de fer qui a appris aux gens à arriver à l'heure. Avant, c'était une notion qui n'existait pas. Et puis, j'ai montré un très bel observatoire de Jaipur dans ma leçon inaugurale, etc. Mais maintenant, on sait qu'on peut, on peut synchroniser. Vous savez, les neutrinos qui allaient plus vite que la lumière, c'était un bug dans une fibre, un problème de mauvais contact dans une fibre optique. On essayait quand même de synchroniser le temps à quelques nanosecondes, à quelques centaines de kilomètres. Il ne faut pas penser que c'est facile. J'aimerais bien faire parler un jour les gens qui synchronisent des horloges à la nanoseconde, à quelques centaines de kilomètres. Voilà. Donc même en physique, tout ça, ce n'est pas simple. Puis il faut savoir que le temps, maintenant, ça sert quand même à mesurer la distance depuis 1963. C'est la vitesse de la lumière dans le vide qui mesure la distance. Et ça va bientôt servir à mesurer la masse, puisque la masse va être définie par la seconde et d'autres constantes. Alors, le temps continu classique, j'ai déjà présenté un peu dans l'inaugural, mais j'y reviens. Donc, on a une droite réelle, on a des instants qui s'appellent T. Si on met le présent là, on a le futur en négatif, on a un infini à chaque bout. Et puis, on a des intervalles ouverts ou fermés, puis on a des événements, éventuellement une simultanéité si deux événements se produisent pile à la même heure. Donc, ça, c'est le temps qu'on apprend à l'école. Bon, c'est très bien, mais ce n'est pas si simple que ça, parce que les nombres réels ne sont pas calculables. Donc, ça va nous poser un problème. Et les flottants et les nombres réels, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc la discrétisation, ça va être un véritable problème. Heureusement, les nombres flottants, depuis les travaux, la normalisation des flottants, qui est toujours en cours, hein. Je vous rappelle que sinus n'est pas encore une fonction normalisée, ça a permis de faire beaucoup de progrès. Mais donc, cette droite réelle va nous poser quand même des tas de soucis. Et souvent, même en mathématiques, on va parler de temps discret. Et donc, on va prendre des instants qui sont peut-être posés sur la droite réelle, ou pas. C'est-à-dire qu'on va prendre des instants qui vont être numérotés, discrets, et ils vont peut-être avoir des dates réelles ou pas, ou des dates flottantes ou pas. On va manipuler un peu tout ça selon les besoins. Et puis, on a toujours cette notion d'événement et de simultanéité. Et là, il y a un nouvel obstacle qui se pointe, c'est Zénon. Donc, Zénon, qui a Achille et la tortue. Ce paradoxe est mal compris par les gens. Hein. Il y a des gens qui croient encore qu'on n'arrive pas à toucher les tables à cause d'Achille et de la tortue. Mais le paradoxe ne vient que du fait qu'on s'autorise un découpage différent, mental, différent entre le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'on va passer par une infinité de milieux dans le temps, mais aussi par une infinité de milieux dans l'espace. Il n'y a aucun problème de paradoxe. C'est juste que le continu ça a ses propres difficultés, pas paradoxes. Hein. Mais par contre, ça peut nous faire des tas de problèmes dans les logiques temporelles, par exemple, de mettre un nombre infini, quand on met des dates réelles, de mettre un nombre infini d'instants entre deux dates réelles, ça pose tout un tas de problèmes. Et par exemple, l'utilisation de la logique non standard, de l'analyse non standard, va permettre de faire des choses assez jolies en simulation. Ça, on le verra après. Alors, j'avais dit aussi que le temps n'était pas forcément linéaire et que très souvent, on se mettait dans une situation où on connaissait le passé et on essayait de comprendre l'avenir. Et là, on a des formules du genre « Sachant que j'ai déjà fait A, si je fais B, j'aurai C, mais si je fais D, j'aurai E. » Donc, on commence à spéculer sur l'avenir. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes raisonnements que le raisonnement linéaire. Et on va voir que ce n'est pas les mêmes logiques. Les logiques temporelles arborescentes. Alors voilà un exemple que j'ai déjà montré ici, mais que je reprends, l'exemple de la machine à café de Milner. Alors vous avez une machine, il y a une fente, ici, il y a café ou thé, et il y a un bouton café, un bouton thé, et vous êtes censé appuyer sur le bouton café pour avoir du café et thé pour avoir du thé. Donc ça, c'est la machine anglaise. La machine anglaise est très rigoureuse et pragmatique. Vous appuyez, vous mettez un euro, vous appuyez sur le bouton café et vous sort du mauvais café. Ou alors vous appuyez sur le bouton thé et vous sort du bon thé. C'est une machine anglaise typique. La machine française est beaucoup plus maligne côté qualité du café, mais nettement moins pragmatique, comme d'habitude. Et en gros, qu'est-ce qui se passe là? Vous mettez un euro, vous appuyez sur le bouton café, et en fait, la machine choisit si vous avez du café ou du thé, ce n'est pas vous qui choisissez. Ça, c'est la machine, voilà, c'est deux machines différentes. Alors, si vous les regardez sur une échelle de temps linéaire, l'échelle habituelle de la physique, on ne peut pas les distinguer. Parce que leur comportement, c'est toujours ça. C'est les comportements possibles de ces deux machines sont les mêmes au niveau linéaire. Si je mets un euro, j'appuie sur le bouton café et j'ai du café. Ou alors, je mets un euro, j'appuie sur le bouton thé et j'ai du thé. Et en linéaire, on ne peut pas expliquer que ben, la machine française, de temps en temps, il y a un des deux boutons sur lequel on ne peut pas appuyer. Elle ne peut pas expliquer la négation de l'appui du bouton, cette logique simple-là. Et alors qu'en logique arborescente, va permettre de raisonner sur différentes trajectoires et pas seulement sur des états. Et on va dire, voilà ce que ça veut dire, il est toujours vrai pour tout état que si je mets un euro, il existe un chemin conduisant à du café et il existe un chemin conduisant à du thé. Donc la logique temporelle arborescente va être nettement plus riche parce qu'elle va parler à la fois de prédicats sur des états, comme pour tout état ceci est vrai, et des prédicats pour des chemins, des trajectoires variées dans le futur, dans du temps conique, qui vont dire il existe du café, il existe du thé. J'avais montré cet exemple lié à la bisimulation de Milner, c'est autre chose, mais c'est assez équivalent. Donc déjà, des logiques linéaires ou arborescentes, ça n'exprime pas les mêmes propriétés, ça n'a pas les mêmes vertus, ça n'a pas les mêmes difficultés. Et les gens ne comprennent pas toujours ça. Par exemple, dans le monde des circuits, il y a une logique temporelle qui s'appelle PSL, Program Specification Logic, je ne sais plus comment il s'appelle, le vrai nom, PSL qui a été faite chez IBM, et ils l'ont sournoisement passée de... Elle est née arborescente, ils l'ont sournoisement passée en linéaire. C'est une logique énorme, c'est un truc énorme avec lequel tout le monde écrit des formules qui font 3 caractères de long. Et elle est passée en linéaire, personne ne s'en est aperçu, alors que ce n'est vraiment pas la même chose. Double cône du temps, ça nous arrivera des fois. Eh bien, c'est si j'avais su. Hein, c'est des gens qui, quand ils sont au restaurant, ils ont peur de prendre un plat parce qu'ils ont raté l'autre. Donc, si j'avais su, je n'aurais pas fait ça et tout. Là, ça se complique la vie. Mais des fois, on est obligé de raisonner comme ça pour comprendre comment transformer un système qui ne marche pas en système qui marche. Bon, alors, fin des préliminaires. Maintenant, on va commencer à travailler. Les circuits. Alors, il y a des animations dans l'instant inaugural. Il y en a une que j'ai faite trop vite, c'est l'addition sérielle. Je la referai, mais l'addition combinatoire, elle est simple. En gros, dans la suite, rouge, c'est 1 et bleu, c'est 0. Alors, 1 volt, 0 volt, ça ira très bien. C'est à peu près ça maintenant. Et en gros, voilà ce qui se passe. Vous avez un circuit avec des fils et des portes. Ça, c'est OU, ça, c'est E. Ça, c'est OU exclusif, pardon. Ça, c'est OU exclusif et E. Et on dit, quand on prend 3 bits et qu'on veut faire leur somme en binaire, eh bien, quand est-ce que la somme vaut 1? Eh bien, c'est le OU exclusif des 3. D'accord? Vous n'avez qu'à regarder, OU exclusif, c'est 1, 1 égale 0. Hein, vous n'avez qu'à regarder la table, c'est ça, c'est le OU exclusif des 3 bits. Et quand est-ce que la retenue vaut 1, la somme et la retenue? La retenue vaut 1, c'est la majorité des 3. La retenue vaut 1 quand il y a au moins 2 bits à 1. OK. Bon, alors, je ne vous fais pas l'animation, mais en gros, vous mettez du courant, du voltage là, 1 volt, 0 volt, 1 volt. Là, le temps va être continu. Enfin, on va le voir comme continu. Et les potentiels, ça va rougir, ces fils vont rougir. Les portes vont finir par travailler et fabriquer leurs sorties et fabriquer les sorties finales. Tout ça dans un ordre qui dépend complètement de la technologie, du placement routage des portes et de la température. C'est-à-dire que la propagation de ces choses-là que j'ai dessinées avec une animation dans la leçon inaugurale, la propagation de ces choses-là va se faire dans des ordres extrêmement variés, non déterministes, et que vous ne souhaitez pas déterministes. Mais en revanche, il y a une propriété majeure, c'est la confluence. C'est-à-dire que quel que soit l'ordre dans lequel ça se passe, le résultat va être le même. C'est-à-dire que quel que soit l'ordre dans lequel les voltages s'établissent, et puis ça peut même faire des oscillations temporaires, le résultat va être le même. Et en plus, les électroniciens sont des gens extrêmement généreux. Ils nous disent exactement le temps que ça va prendre dans une technologie donnée. Pas exactement, ils nous donnent une borne supérieure. Alors, pour chaque entrée, ça met un temps borné. Et comme le nombre d'entrées est fini, on peut calculer le temps le pire pour toutes les entrées. Et ça, c'est le temps, ce qu'on appelle le temps de cycle du circuit, c'est le temps auquel vous pouvez avoir confiance dans les résultats. Et juste après, vous pouvez vous en resservir pour faire une addition. Okay ? Donc là, on a un instant épais. On a exactement deux façons de voir les choses. Alors là, ce chemin-là que j'ai tracé pour ce circuit-là, c'est ce qu'on appelle le chemin critique, c'est-à-dire c'est le chemin le plus long à stabiliser. Alors pour ces entrées-là. Après, on calcule le pire des chemins critiques. Bon, là, c'est le chemin critique pour ces entrées. C'est celui qui détermine la lenteur du circuit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir deux visions. La première vision, c'est la vision confluente, vibratoire. Il y a une vibration qui va dans le circuit. Elle ressort à l'autre bout, ça met du temps. Et la deuxième vision, c'est des équations du circuit qui sont là. Et la vision du programmeur que je suis, c'est je me fiche du temps que ça met. C'est le problème des électroniciens. Moi, ce que je sais, c'est que si je mets A vrai, B faux et C vrai, le résultat, c'est S faux et R vrai, il n'y a pas de temps là-dedans. Donc, on a deux modes. Un mode temps discret, épaisseur 0. C'est beaucoup plus simple de mettre épaisseur 0 qu'épaisseur 1. Épaisseur 0, qui me dit, bon, mais j'ai des équations, ça les résout. Et ça, c'est de l'informaticien. C'est comme ça que je spécifie les circuits. C'est comme ça que de plus en plus, on spécifie les circuits. Et l'électronicien qui nous dit, mais tout ça, c'est fait avec des fils et transistors. Voilà le temps que ça met. Et cet échange, ce chiffre que donne l'électronicien à l'informaticien, si je puis dire, c'est fondamental, c'est celui qui fait marcher cette industrie. Si on n'avait pas ça, on ne saurait pas faire des circuits de la taille actuelle. Et c'est à un point maintenant que quand je définis le circuit, quand j'écris ces équations, je n'ai pas le droit de savoir sur quel transistor je travaille. Parce qu'ils vont changer. Peut-être mon circuit va être porté sur d'autres transistors. Et une société comme Arm, par exemple, bon, c'est un peu plus compliqué sur les micros, mais les téléphones, c'est comme ça. Il se peut que le même circuit ait des générations et des transistors différents, des vitesses différentes. Donc, je n'ai pas le droit de savoir ce que c'est que le transistor. Avant, ce n'était pas vrai. Donc, maintenant, le monde est coupé en deux. Il y a des gens qui ne savent pas et des gens qui savent, de plus en plus. C'est une simplification, hein, mais pas vraiment si grande que ça. Donc, on a ici réalisé une équivalence entre deux temps à travers l'épaisseur de l'instant. Premier temps, le circuit est une machine vibratoire parallèle confluente. Et deuxième temps, elle résout des équations parallèles synchrones dans lesquelles il n'y a même pas de temps. OK ? Bien, alors le temps en question, c'est un tiers de nanoseconde ou un truc comme ça, hein, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait comme schéma ? On a unifié deux schémas. Le schéma du temps logique, dans lequel une entrée fabrique une sortie immédiatement, et le schéma du temps physique, dans lequel ça met un certain temps. Et ce qu'il faut impérativement, pas totalement impérativement, mais impérativement quand même, c'est qu'il n'y a pas de recouvrement entre deux additions successives. Parce que s'il y a des recouvrements, alors là, cette propriété peut se perdre. Alors, on peut faire des trucs plus habiles dans les circuits asynchrones, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. D'accord ? Donc, équivalence entre deux notions de temps complètement différentes grâce à la confluence des calculs. Alors, comment on fait une addition plusieurs bits ? Ben, la première méthode toute bête, c'est de faire comme à l'école. On prend les bits de poids faible, donc les unités, on appelle ça, puis les dizaines et les centaines, mais en base 2. Et puis, on va propager la retenue des unités vers les dizaines. Et ça, électroniquement, ben, on sent bien que ça va prendre du temps, effectivement. Ça va fabriquer un chemin critique qui est celui-là. Donc, méthode extrêmement simple, l'addition de l'école, très mauvaise. Pourquoi elle est très mauvaise? Parce que pour un n bit, elle prend un temps n. 64 bits, soit temps 64, c'est pas raisonnable. Donc c'est là qu'on va faire notre premier échange espace-temps. On va perdre de l'espace pour gagner du temps. Alors, plusieurs méthodes, je vais vous en montrer deux, et puis après, je vais vous montrer d'autres additionneurs. Mais d'abord, celui-là. Donc, celui-là, j'ai montré dans la semaine inaugurale, on va le montrer un tout petit peu plus en détail, l'additionneur de von Neumann. Il dit, ben, au lieu de calculer A plus B, oui, le problème de la retenue, c'est cette très longue chaîne. Alors, cette très longue chaîne, on va la couper en deux par le milieu, selon le principe de dichotomie qui est le principe numéro un de l'informatique, de l'algorithmique. Hein. On va la couper au milieu. Donc, on va calculer deux choses en parallèle. On va faire un circuit qui, au lieu de calculer A plus B, calcule deux choses en parallèle, A plus B et A plus B plus 1, en parallèle, en partageant des choses d'ailleurs. Bien. Et puis, on va faire une récurrence. Si on a deux n bits, on prend les n bits de poids faible, on sort n bits de poids faible. Mais on sort A plus B, A plus B plus 1. Pour les poids forts, on fait exactement la même chose en parallèle, donc en même temps, puisque c'est une vibration électrique. En même temps, on calcule A plus B, A plus B plus 1. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe là, si on a ça? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que si la retenue de A plus B, alors si on veut calculer A plus B, si la, pour les deux n bits, si la retenue de A plus B c'est 1, il faut prendre le A plus B plus 1 ici. Si la retenue c'est 0, il faut prendre le A plus B ici. Donc en fait, on sait à ce moment-là quelle retenue faut envoyer aux deux poids forts. Et ça, ça se fait. Et puis la même chose, si on veut calculer A plus B plus 1, le résultat A plus B plus 1, eh bien, on calcule A plus B plus 1 ici. Si la retenue vaut 0, on calcule A plus B ici. Et si la retenue vaut 1, on calcule A plus B plus 1 ici. Donc, récursivement, on a calculé comme ça trop, et ces multiplexeurs-là, donc ça, c'est des aiguillages. Hein. Si cette entrée vaut 0, ça prend ce fil-là, ça l'envoie sur la sortie. Si cette entrée vaut 1, ça prend ce fil-là, ça l'envoie sur la sortie. C'est des aiguillages, comme des va-et-vient. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On calcule trop et on jette la moitié. Donc, énergétiquement, c'est idiot. Au niveau espace, c'est idiot. Mais au niveau temps, c'est génial. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, on peut gagner beaucoup de temps. C'est ce qu'on appelle la spéculation. J'ai spéculé sur la retenue des poids forts et ensuite, j'ai pris la bonne valeur. Comme j'avais spéculé, j'ai les deux dans la main et je peux jeter la mauvaise. Hein ? Et la spéculation, vous allez voir ça dans les microprocesseurs partout. Alors, sur 4 bits, voilà le résultat final. Très, très joli circuit, pas tout à fait homogène. Vous voyez, il penche un peu vers les poids forts. Hein ? Mais l'avantage, c'est que, eh bien, au lieu d'être... un temps, au lieu d'être un temps 64 pour 64 bits, c'est un temps 6 pour 64 bits, parce que le chemin de retenue s'est transformé en arbre. Et la profondeur d'un arbre, c'est le logarithme binaire du nombre de feuilles. Et donc, on est passé de 64 à 6, de 128 à 7, de 256 à 8. C'est absolument majeur. En augmentant la surface de façon raisonnable. Donc, très bel additionneur. Ah, premier formalisme, le langage jazz, qu'on a défini chez Digital Equipment avec Jean Vuillemin, Patrice Bertin et François Bourdon, qui l'a implémenté. François qui a déjà causé ici, mais de moteur de recherche. Voilà comment on écrit, c'est un tout petit langage fonctionnel qui est très très élégant. Donc on écrit, voilà, ça c'est le cas 1. Hein. L'addition 1 bit, où on sort à la fois S et S', c'est-à-dire A plus B, A plus B plus 1, eh bien on dit VN A1 de A de B, c'est on sort 2, net, ça veut dire fil, on sort deux paires de fils, hein, puisque là, il y a deux bits à la sortie, une addition d'un bit, ça en donne deux, et on dit S de 0, c'est le XOR de A et de B, ça c'est XOR, comme on sait, S' de 0, c'est la négation de A et de B, S de 1, c'est A et B, S' de 1, c'est A ou B, ça c'est des bonnes formules. Bon, et puis pour la récurrence, voilà ce qu'on écrit, donc le programme, il est très simple, totalement formel, on écrit pour additionner N bits, d'accord, pour additionner N bits, avec A et B de n bits, là, ce n'est même pas forcément des multiples de 2, on va ressortir la somme et la somme plus 1, SS', qui font chacune n plus 1 bit. On dit qu'est-ce qui se passe si n est égal à 1, ben c'est le cas de base qu'on vient de traiter. Et sinon, on divise n par 2, donc ça, c'est une division statique, c'est une division à compile time. On divise n par 2, on calcule l'addition des poids faibles, ensuite, on prend les poids forts, donc on calcule n seconde égale n moins n prime, à compile time. On prend les poids forts, et ensuite, on sort les bits de poids faibles comme il faut, et ensuite, on écrit les deux mux, les deux multiplexeurs, les deux aiguillages sur les bits de poids forts, avec une boucle statique. Cette boucle dit à la compilation, vous allez faire pour K plus petit qu'une seconde. C'est un langage, vous voyez, qui est fonctionnel, ultra simple, pas typé. Il est bien sûr typé, on n'écrit aucun type. Le type checker sait trouver ce qui est statique, ce qui est dynamique, et avec ça, on va générer des simulateurs, des circuits, etc. Je pense qu'on ne peut à peu près pas enlever un caractère à cette définition et que cette définition est parfaitement formelle. Alors, c'est un très beau langage, Jazz, utilisé par très peu de gens, malheureusement. Si quelqu'un souhaite le ressusciter, ce serait vraiment une bonne idée, comparé à ce qu'on a d'habitude. Alors, il y a quand même des beaux langages comme Lava, qui a été fait au-dessus de Lustre, avec lequel vous pouvez tout à fait faire des choses comme ça aussi. Lava a été fait en Suède. Alors, on va faire une autre addition. Donc, Feynman, c'est pas mal, mais c'est pas la seule. Je vais vous en montrer une autre pour montrer qu'on peut utiliser des principes de programmation très logiciels pour faire du hardware. Alors, voilà, comment dire, c'est toujours la retenue notre problème, c'est propager la retenue, c'est galère. Alors, on va être beaucoup plus astucieux, on a coupé au milieu là, mais on va couper au milieu d'une autre façon. Au lieu de propager la retenue, il est beaucoup plus facile de propager la fonction de composition, la fonction qui détermine la retenue, la fonction de propagation de la retenue. Alors regardez, vous avez 2 bits A et B, et vous regardez comment une retenue entrante se propage à la sortie. Donc là, c'est une fonction. Vous avez la retenue entrante, vous voulez savoir quelle est la retenue sortante. Ben, c'est assez simple. Si A vaut 0 et B vaut 0, quelle que soit la retenue entrante, il n'y a pas de retenue, donc ça fait 0. Si A vaut 1, B vaut 0, ou A0, B1, d'accord. Si la retenue entrante est 0, il n'y a pas de retenue, parce que la somme vaut 1 et la retenue 0, 0 plus 1 plus 0, ça fait 1 et pas de retenue. Donc, avec 0, il n'y a pas de retenue. Et avec 1, par contre, ça fait 1 plus 1 plus 0 ou 1 plus 0 plus 1, ça sort une retenue. Donc, la fonction de retenue, c'est la fonction constante 0 pour A égale 0, B égale 0, la fonction identité pour A égale 1, B égale 0, et c'est la fonction constante 1, il y a toujours une retenue, si A vaut 1 et B vaut 1, il n'y a même pas besoin de regarder la retenue entrante pour savoir ça. Donc on a cette fonction, et c'est plus facile de composer les fonctions que les retenues. C'est ça l'idée. Pourquoi ? Parce que regardez la retenue sortante au bout de 8 étages. C'est ça. C'est vous prenez la retenue entrante de l'addition qui est 0, la retenue globale, vous y appliquez la retenue des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, etc. Et d'après la définition de la fonction, ça, c'est la retenue qui sort au bout. Maintenant, ceci, vous pouvez l'écrire, je compose ces fonctions et je l'applique à 0. Programmation fonctionnelle. Mais la composition de fonctions est associative. Donc, vous pouvez la calculer en parallèle. Vous pouvez la calculer comme ça. Vous calculez en parallèle 4 petites compositions, puis après, vous calculez 2 plus grandes compositions, puis après, vous calculez 1 plus grande composition, et là, vous avez vos fonctions de retenue. Et là, vous avez quelque chose de complètement symétrique, ce que n'était pas l'additionneur de von Neumann. Alors, ça marche comment, ça ? Mais d'abord, comment est-ce qu'on met des fonctions dans des circuits ? Fonctions, c'est... Ben oui, mais c'est des fonctions triviales, c'est des fonctions d'un bit dans un bit, on les met en mettant leur table de vérité. C'est-à-dire, je mets 2 fils par fonction. Le premier porte la valeur en 0 de la fonction, le deuxième la valeur en 1 de la fonction. Donc c'est la table de vérité qui va se calculer dynamiquement. Comment est-ce qu'on applique une fonction à un argument ? Eh bien, c'est prendre la bonne valeur dans la table de vérité, donc c'est un multiplexeur. Si x vaut 1, je prends la valeur de la fonction en 1, si x vaut 0, je prends la valeur de la fonction en 0. C'est rigolo parce que c'est un peu compliqué à comprendre parce que c'est trop simple. Ça arrive souvent, ça, hein ? C'est vraiment très bête, quoi. Je mets la fonction sur 2 fils et je prends le bon. Ça, ça applique. Pour composer, eh ben, j'applique la définition mathématique de la composition. G rond F de 0, c'est G de F0, de F de 0. Donc je calcule F de 0, c'est le fil F0. F de 0, c'est le fil F0, c'est par définition. Et je prends soit G0, soit G1, suivant le... Voilà, donc c'est un autre multiplexeur. Donc, composer des fonctions à multiplexeur, deux multiplexeurs, appliquer une fonction à multiplexeur. On écrit le plus bête, hein, c'est pour ça que ce n'est pas facile à comprendre. Mais vous pourrez regarder ça, les transparents sont en ligne. C'est vraiment bête comme chou. Et puis, alors, voilà ce qu'on fait. Donc, on calcule nos petites boîtes qui vont calculer 2 bits par 2 bits depuis les unités qui vont calculer la fonction de composition de retenue, essentiellement. Et puis, on compose dans des boîtes de composition ici, on compose ces fonctions de composition de retenue. Et là, c'est un arbre parfaitement bien équilibré. Et puis ensuite, on réapplique, ça c'est le contenu de la petite boîte, on réapplique ça, donc vous voyez ici la fonction de composition de retenue, la retenue entrante qui arrive, qui est propagée à gauche, qui est ensuite appliquée, on applique la fonction de composition à la retenue entrante pour calculer la retenue sortante, c'est tout bête, et puis c'est tout. Et on redescend ces fils, et puis on ressort les bits. Donc, vous le regarderez si vous le voulez, ou vous le referez vous-même, hein, faut se convaincre qu'on ne peut pas faire plus bête. Donc ça, c'est Jean Buimin, et c'est Buimin préparatin, je crois. Il n'est pas là, Jean, alors je ne sais pas me faire contrôler. Ou Brent et Kung, il y a plusieurs noms à cet additionneur. Et cet additionneur est extraordinairement symétrique, et très, très joli. Alors, hein, bon, ben, c'est vraiment l'idée, c'est simple, hein, c'est composer des fonctions de retenue, faire rentrer la retenue, mais c'est zéro au départ, et puis simplement sortir à gauche la retenue entrante et à droite la retenue sortante. Et on fait ça dans l'arbre, et puis c'est bon. Et puis évidemment, la hauteur de l'arbre, c'est log n, et donc le chemin critique, c'est log n. Et on a un additionneur rapide et très simple, et extrêmement élégant. Et son code est extrêmement joli. Vous voyez, là, il y a même le cas dedans. Il est encore beaucoup plus simple que l'autre. Hein. Vous écrivez le cas de base, qui est très très simple. Bon, ça, c'est les deux fonctions de calcul. C'est le calcul de la propagation de retenue. Et puis, voilà, vous faites récursivement les poids faibles, récursivement les poids faibles, vous composez des fonctions et vous appliquez pour la retenue. Et c'est tout. Et ça, ça fait une addition extrêmement vite et efficacement. D'accord ? Alors, si je vous le fais, vous ne comprendrez pas forcément mieux. Le bon truc, c'est de se dire, nom de Dieu, une fonction, c'est jamais que deux fils. Appliquer, c'est juste un sélecteur, composer, c'est deux sélecteurs, et après... Voilà, vous le regardez dans le blanc des yeux et vous verrez que c'est très, très joli. Alors, vous voyez, cette programmation-là, ce n'est absolument pas celle qu'on a d'habitude quand on apprend les circuits. Hein. Et pourtant, c'est ça la beauté, c'est la récursion. Encore une fois, la programmation, la beauté, c'est la récursion. Alors, ce n'est pas tout ça, mais log n, c'est trop long. C'est beaucoup trop long, log n. On voudrait faire mieux que log n. Alors, bon, on peut montrer qu'avec des circuits asynchrones, on sait faire log n. En moyenne, c'est plus compliqué. Mais on va faire mieux que log log n, on va faire 1. Alors, il est très facile de montrer que c'est impossible. On ne peut pas faire l'addition de n bits en temps 1. Parce qu'il y a une retenue à propager. Après, il faut se convaincre qu'il faut être plus malin. On va faire l'addition, on va faire presque l'addition en temps 1. Et là, cette invention-là vient de Chine. Elle vient du boulier chinois. Le boulier chinois, si vous regardez bien un boulier chinois, ils ne le font pas tout à fait, mais presque un boulier chinois, vous savez, il y a une barre au milieu, en bas, il y a 5 pions, puis en haut, il y a 2, qui comptent 5 chacun. Ça veut dire que dans le boulier chinois, chaque colonne peut contenir non pas 10, mais 15. Et le fait qu'elle contienne 15 est une énorme astuce qui permet d'avoir une représentation des nombres qui n'est pas uniforme, qui est multiple. Alors, c'est ce qu'on va appeler les nombres mous. Alors, il ne fallait pas mettre 15, il fallait mettre 20 dans le boulier chinois, mais enfin, ça marche pas mal. Et si vous regardez, si vous êtes entraîné sur un boulier chinois, vous faites les additions avec les deux mains comme ça. Ce qu'on ne peut évidemment pas faire avec un boulier normal. Mais la grande différence, c'est que vous ne pouvez pas facilement lire le résultat. Donc, vous allez faire des additions en temps 1, mais vous n'allez pas pouvoir lire le résultat. Ah, pour un restaurant chinois, ce n'est pas grave du tout. Pourquoi ? Parce qu'il va faire l'addition, il a l'addition de la table, là. Il y a 15 convives qui ont chacun 3 plats, il va faire 45 additions sans jamais lire les résultats. Ça n'a aucune importance. Les résultats intermédiaires, tout le monde s'en fiche. À la toute fin, sur la 46e édition, il va faire tchic-tchic avec les doigts et là, il va pouvoir lire le résultat. D'accord ? Donc, l'addition en temps 1 dont on ne peut pas lire le résultat est très importante si on n'a pas besoin de lire le résultat. Alors, comment est-ce qu'on l'a fait ? Eh bien, on définit la notion de nombre mou. Un nombre mou, c'est deux nombres durs. OK ? Alors là, ça a des tas de noms, c'est Avicennis et tout, mais moi, je préfère la méthode Buimin, qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins compliqué à expliquer. Donc, vous avez un nombre mou, c'est deux nombres durs, et la valeur du nombre mou, c'est la somme des deux. Ça veut dire que pour connaître le résultat, il faut faire une addition, alors que justement, on essaie d'éviter de faire des additions. Vous allez voir que c'est bien. Par exemple, 0, ça s'écrit 0, 0, 1, ça s'écrit 1, 0 ou 0, 1, 2, 2, 0, 1, 1 ou 0, 2. Donc, chaque nombre peut s'écrire de plein de façons. C'est ça l'astuce. OK. Et on va faire temps constant, c'est-à-dire 1 ou 2, c'est pareil. Alors, voilà comment ça marche. On va d'abord commencer par additionner un nombre mou et un nombre dur. Nombre dur, c'est un nombre normal. A mou et B dur. Donc le résultat va être mou. Et je dis C' plus C seconde égale A' plus A seconde plus B. Voilà ce que je veux calculer. Puisque la valeur de C, c'est C' plus C seconde, la valeur de A, c'est A' plus A seconde, et la valeur de B, c'est B. Donc je veux trouver C' C seconde. Je connais A' A seconde, je connais B. Je veux trouver C' C seconde qui se calculent très vite et qui ont cette propriété. Eh bien, ça, c'est horriblement simple. Je prends l'additionneur de tout à l'heure. Ça, c'est le même symbole que pour l'additionneur. Vous avez les trois entrées, vous avez la somme qui est là et la retenue qui est là. En parallèle, sur tous les bits, je calcule A plus B à ce bit-là. Et ensuite, je fais simplement de la plomberie. Je prends le fil de retenue ici et je l'envoie à cette... Je prends le fil de retenue d'un étage et le fil de somme de l'étage suivant, etc. J'injecte un zéro au début. Donc, j'ai juste courbé mes fils conceptuellement, rien fait d'autre. Eh bien, il est trivial de voir, c'est ce qu'on apprend à l'école, quand, c'est comme ça que vous faites l'addition. Si vous écrivez les retenues, c'est comme ça que vous faites. Il est trivial de voir que la somme de C' et de C seconde, c'est exactement la somme de A' plus A seconde plus B0. On le verra bien avec les deux ADIC. C'est quasiment la défi. C'est comme ça que vous faites quand vous faites une addition, vous décalez la retenue pour la mettre sur le côté. Mais là, vous ne faites pas encore cette addition. C'est ça l'astuce. Vous la gardez sous le coude. Elle n'est pas faite. OK ? Donc, un petit coup de plomberie et deux nombres mous plus un nombre dur, ça fait un nombre mou. Mais si vous voulez ajouter deux nombres mous, eh ben, c'est très simple. C'est très simple. Vous prenez ce que vous venez de faire avec, en laissant les A', vous prenez que les A secondes, là. Il faut se rappeler que A, c'est A' plus A seconde. Donc, vous faites un coup pour les A', mais là, vous ressortez un nombre mou. Et vous faites le deuxième coup pour les A secondes. Donc, vous commencez par faire mou avec A', B'1, avec A seconde, B', B seconde. Vous faites mou plus dur. Ça vous donne mou. Et vous rajoutez la deuxième partie de A mou, qui est un dur, et ça vous donne mou. Donc, comme ça... Vous avez votre additionneur qui est évidemment en 2 d'épaisseur. Il y a deux additionneurs, épaisseur 2, mais donc constante, quel que soit le nombre de bits. Vous mettez 1000 bits, ça fait une addition de deux nombres mous en temps 2. Très cool. On n'apprend pas ça à l'école, pourtant c'est vraiment rigolo. Alors c'est bien, mais ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert par exemple à faire la multiplication. Parce que si vous faites une multiplication, qu'est-ce que c'est qu'une multiplication ? Ben, la multiplication, c'est une matrice. Alors, en général, on ne la présente pas comme ça, parce que ben, ça revient exactement à ça. C'est une matrice où là, j'ai le bit 0 multiplié par le bit 0, le bit 0 multiplié par le bit 1, le bit 1 multiplié par le bit 0. C'est exactement ce qu'on fait quand vous posez votre multiplication de l'école. Sauf qu'on ne la dessine pas tout à fait pareil, mais c'est exactement la même chose. Enfin, je l'ai dessiné pas tout à fait pareil, je ne sais pas pourquoi. C'est exactement la même chose. Et tout ça, ça se fait en parallèle. Et qu'est-ce que c'est que la multiplication de deux bits ? C'est le « et ». C'est pour ça que j'aimais bien expliquer aux gamins de 6 ans que le binaire, c'était très simple, s'il n'y avait rien de plus facile que de faire des multiplications. Ça les étonnait parce qu'ils en bavaient tellement avec le décimal. Donc voilà, donc vous calculez une grande matrice de porte E, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, faut additionner tous ces machins. D'accord ? Eh bien, première chose qu'on va faire, c'est de les additionner ligne par ligne, mais en mou. Vous n'avez pas besoin de voir les résultats intermédiaires. Donc ça va se faire en temps constant. Et puis, on va faire ça en dichotomie. Donc, vous allez faire un arbre d'additionneurs mou, okay, qui vous calcule des nombres mous, et finit par vous sortir, alors, il vous les calcule en dichotomie, c'est-à-dire en temps logarithmique, ici, et il finit par vous sortir un nombre mou, qui est la somme de toutes ces lignes. Ça n'a aucun intérêt de le faire en dur, vu que personne ne s'intéresse aux résultats intermédiaires. Donc, vous avez un nombre mou à la fin, il faut le transformer en dur. Mais comme c'est A' plus A seconde, il suffit de calculer A' plus A seconde avec un additionneur, par exemple, de von Neumann ou de Wiemann preparata. Et voilà. Et quel est le coût de ça ? En surface, N2. D'accord ? N2, puis ça, c'est que dalle. Ça, c'est N2. Ah oui, c'est pas, l'addition, ce n'était pas N2, mais c'est comme ça, on paye la multiplication. Mais en temps, tout ça, c'est en temps 1. La matrice de V, c'est en temps 1. Ah, je ne compte pas le routage, tout à fait. Ça, si on compte le routage, c'est un tout petit peu plus subtil, mais enfin bon. Chaque additionneur est en temps 1 ou 2, c'est pareil. Cet arbre-là est en temps, mettons, 2 log n, et ça, c'est en log n. Donc, c'est log n plus log n. Donc, l'addition, la multiplication se fait en log n plus log n. Et que la multiplication ne soit pas plus chère que l'addition, ça, ce n'est pas évident en temps. Évidemment, en surface, elle l'est. Hein, elle l'est beaucoup. Donc, avoir cet additionneur logarithmique-là, c'est fondamental. Si on avait mis un additionneur normal, on serait déjà linéaire. Hein, donc, perdre de l'espace pour gagner du temps, c'est absolument fondamental. Alors, il y a d'autres multiplieurs, bien entendu, mais celui-là s'explique, je dirais, au collège, pour les gens qui ont envie de l'apprendre. Hein. Mais les nombres, le binaire, c'est pas si simple pour les gens. Moi, j'apprends ça aux enfants. Le binaire, c'est très simple. Vous comptez sur le nez ou vous comptez sur les doigts. 0, 1, retenu. Un grand coup de coude dans le voisin. Voilà. Ça va, le multiplier, c'est bon. C'est très joli, c'est très simple. C'est pour ça que j'aime le hardware. Alors, voilà. Alors maintenant, on va se poser des questions sur la logique. Parce que les circuits, on a dit que c'est des 0 et des 1, c'est des nombres. Mais les 0 et des 1, c'est aussi vrai-faux, c'est aussi la logique. Quel est le rapport entre la logique et les nombres? Ah, ça, c'est un rapport magnifique. Et on va voir, ça, c'est un des résultats que j'ai obtenu avec des collègues, et surtout la preuve, dont vraiment je suis le plus fier et le plus content, et vous allez voir que ça a des impacts assez rigolos. Alors, oups, ça ne marche plus, lui. Nouveau. Ah ben oui, non, il s'est passé un truc bizarre, il y a quelque chose qui est apparu, voilà. OK. Alors voilà, la logique, c'est quoi? Ben, c'est le calcul de vrai-faux, qu'on va appeler 0, 1. Hein. 0, c'est faux, et vrai, c'est vrai. Et on va montrer que l'électricité, c'est exactement la même chose que la logique booléenne constructive. J'en ai parlé ici. Ce n'est pas la logique booléenne classique, c'est une logique booléenne constructive. La différence, alors la logique constructive, ça date des années 1900 et quelques, ou même avant. Ça a été considéré comme des bêtes très très curieuses par les mathématiciens. Mais l'idée était la suivante. On n'a pas droit aux tiers exclus. On n'a pas droit au raisonnement par l'absurde. On n'a pas droit à faire des hypothèses. Par exemple, on ne peut pas démontrer il existe xp de x, dans la logique constructive générale, hein, il existe xp de x en démontrant qu'il est impossible que quel que soit x non p de x. Le raisonnement par l'absurde. Parce que le constructiviste en face, il dit, mais d'accord, tu m'as montré que c'était impossible, qu'X n'existe pas, mais moi, je veux X. Hein, je ne veux pas une preuve que X existe, je veux X. Montre-moi X. Ah, mais non, mais je ne peux pas te le montrer. Donc, il y a deux mondes en logique. Alors, le monde constructif a été un peu nié par rapport au monde non constructif. Mais c'est lui qui est le bon pour nous. Et Koch, c'est la logique constructive. Il y a aussi la logique non constructive qui peut se mettre dedans. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va parler de circuit, ici. Et les circuits, c'est quoi? Ben, on a nos entrées, et un vecteur d'entrée i rond, là, ça va être des entrées dans 0, 1. C'est la valeur des entrées, juste ça. Et puis les formules, c'est pour ces entrées-là, l'expression quelconque E vaut la valeur B, qui est 0, 1. B, c'est un booléen 0, 1. Alors voilà comment on calcule la logique, comment on définit la logique constructive. C'est la logique constructive booléenne de base. Hein. Quand vous voulez savoir la valeur d'une entrée, vous la lisez dans le vecteur d'entrée. Dans le vecteur d'entrée i, l'entrée i vaut i de i. Bon, là, j'ai rien dit. Pour une négation, si vous savez démontrer que e vaut 0, donc ça, c'est la notation des logiques habituelles, les hypothèses au-dessus, les hypothèses au sens logique, hein, et les conclusions en dessous, pour démontrer que... si vous savez démontrer que e vaut 0, alors vous savez démontrer que non e vaut 1. Je ne vais pas vous surprendre. Et même chose dans l'autre sens. Pour un e... Si vous savez démontrer que E vaut 0, vous savez démontrer que E et E' vaut 0. Si vous savez démontrer que E' vaut 0, vous savez démontrer que E et E' vaut 0. Si vous savez montrer que E vaut 1 et que E' vaut 1, vous savez montrer que E et E' vaut 1. Logique très simple. Le ou, ben c'est exactement le dual. Si vous savez montrer que l'un des deux vaut 1, vous savez montrer que le ou vaut 1. Si vous savez montrer que les deux valent 0, alors vous savez montrer que le ou vaut 0. OK ? Et puis quand vous avez une équation, quand une variable x est définie par l'équation x égale 1, dans le circuit, comme s égale à x sur b sur c, par exemple, si vous savez montrer que l'expression membre droit de la définition de x vaut b, alors vous savez montrer que x vaut b. C'est la logique qui propage bêtement les faits à l'intérieur du circuit. Bon, il n'y a rien dans cette logique. S'il y a quelque chose de très important, c'est que ça, c'est faux. Ça, c'est pas vrai. E ou non E ne vaut pas 1. Il vaut 1 si et seulement si E vaut 0 ou E vaut 1. C'est-à-dire, si vous avez démontré que E valait 0, E ou non E vaut 1. Si vous avez démontré qu'il valait 1, mais si vous ne savez rien de E, vous ne savez rien de E ou non E. D'accord ? Alors, pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, parce qu'on peut voir un circuit comme un appareil à faire des preuves en logique. C'est-à-dire, et ça, ça va être très très important pour toute la suite. Ça veut dire, le circuit, c'est quoi ? Une preuve en logique, c'est un arbre. C'est l'arbre de décision de toutes les règles que vous avez appliquées, pour un et, etc. Et c'est un arbre. Et qu'est-ce que c'est qu'un circuit ? C'est un repliement de toutes les heures, c'est un repliement de tous les arbres de preuves possibles à l'intérieur d'une structure qu'on appelle un DAG, un graphe acyclique. C'est-à-dire que tous ces rebranchements-là, toutes ces choses-là, là, c'est, enfin celui-là il est particulièrement simple, mais par exemple A est partagé en 2 ici, tout ça c'est prendre toutes les preuves possibles pour toutes les valeurs de A et de B et les grouper dans un seul graphe. Et que va faire l'électricité ? Quand on met les valeurs aux entrées, elle va fabriquer la preuve. C'est-à-dire que les nœuds du circuit sont des opérateurs logiques de calcul de preuve et pas seulement de calcul de valeurs. Donc, quand vous regardez les fils à 1 dans un circuit, vous voyez la preuve en logique dans la logique que je vous ai montrée là. Ça fabrique des preuves. Et on va jouer beaucoup avec ça. On va dire, mais puisque ça sait faire des preuves en logique, on peut lui donner des logiques beaucoup plus compliquées que celles-là. Et puis, paf, l'électricité, magiquement, elle va calculer ce qu'il faut parce qu'elle sait faire que ça. Mais ça, ça va être la façon dont on va travailler. C'est ce qu'on appelle la correspondance de Curie-Howard qui dit que prouver, c'est la même chose que calculer. J'en ai parlé à propos du lambda calcul. Alors, là, cette fois-ci, on a temps logique, temps physique, on a notre temps logique, et notre temps physique, au lieu de dire qu'on a des séquences d'opérations, eh bien, on a des arbres de preuves. Donc, on va brancher sur le temps physique, on va brancher des arbres de preuves, au lieu de brancher ce qu'on fait d'habitude, des suites d'opérations. Bon, c'est la même chose. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que ça permet de traiter les circuits avec des cycles. Des cycles combinatoires. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de cycle, mais ce circuit-là, regardez-le, il est très intéressant. Je veux calculer la fonction suivante. J'ai deux fonctions f et g qui sont calculées par des blocs que j'ai déjà. Et je veux dire, si une certaine condition est vraie, je calcule f de g de i, sinon je calcule g de f de i. OK ? Si vous faites un circuit normal, il va falloir que vous ayez deux copies de f et deux copies de g. Si vous voulez que le circuit n'ait pas de boucle, il va falloir deux copies de f et deux copies de g. Si vous avez fgh, eh bien, ça va être exponentiel si vous en avez n. Donc il faut un circuit exponentiel sans cycle. Alors que là, voilà comment je vais faire. Je vais faire un circuit avec des cycles. Alors quand on montre ça aux gens du hardware, ils disent oula, moi je ne sais pas ce que ça fait ça. Mais nous on sait, on va vous montrer. OK, alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a un cycle. Et le cycle, qu'est-ce qu'ils vont faire les électrons là-dedans ? Ils vont tourner, ils vont faire quoi ? Ils vont faire des oscillations. Parce que si vous faites des cycles tout bêtes comme x égale x ou x égale x, ça ne va rien faire, c'est un fil en l'air. X égale non x, ça fabrique un magnifique oscillateur à faire des fonctions bizarroïdes, qui sont à peu près jamais des sinusoïdes, mais des trucs rigolos. Et par contre, ça marche. Pourquoi ce cycle marche-t-il ? Eh bien parce qu'il est toujours coupé. Si vous faites c égale 1, d'accord ? Eh bien, il n'y a plus rien qui passe par ces entrées 0 des multiplexeurs. Donc c égale 1, tous les chemins disparaissent sauf celui-là. On fait d'abord G et puis F, qui est exactement ce qui est marqué là. Si vous faites C égale 0, c'est pareil, mais dans l'autre sens. D'accord ? C égale 0, ça va jeter les fils qui ne servent à rien, qui ne drivent rien, en fait. Il y a du courant dedans, mais ils ne drivent rien. Ils sont jetés par les multiplexeurs. Et là, on voit que dans l'autre sens, on calcule F puis G. Ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème électrique. Vous mettez l'électricité là-dedans. Elle fait le boulot, d'ailleurs, elle ne voit pas ce qu'elle pourrait faire d'autre. Et aucun problème logique non plus, parce que si vous calculez en logique constructive, eh bien, vous allez voir que ce circuit, qui a des cycles, Eh bien, il fait les preuves de la logique constructive tout autant qu'avant. Et donc, toutes les preuves que vous avez envie de faire sont groupées non plus dans un circuit acyclique, mais dans un circuit cyclique. Et ça, c'est cool. C'est vraiment très bien. Bon, alors, voilà des cas beaucoup plus intéressants que celui-là. C'est ce qu'on appelle un scheduler. Donc, on a quatre personnes qui veulent une ressource. Et puis là, il y a un point mémoire qui contient le jeton, un jeton qui va dire qui commence. Quand le jeton est là, ça vaut 1, donc c'est lui qui va commencer. On ne montre pas tous les détails du circuit, mais c'est un circuit très très simple. Il dit en gros, quand on fait une requête, on obtient le OK, soit quand on est celui qui commence, ici, pouf pouf, si on commence, on est alimenté 1 là, donc OK sort. Soit si on n'est pas celui qui commence, mais pas, mettons ici, mais que celui d'avant a dit qu'il ne faisait pas de requête. Si cette requête-là est 0, alors ça vaut 0, et ça vaut 1, et lui a le droit de poser sa requête. Donc ici, ces portes servent à calculer la priorité, et ces portes servent à donner la requête. Donc ici, on a un joli scheduler, on a un point qui détermine qui démarre, et ensuite, on prend le premier qui demande la requête dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Et ça sert bien. Et pourquoi on a mis un point ici? Eh bien, c'est tout simple, c'est parce que ce scheduler, on veut qu'il soit honnête, c'est-à-dire que personne ne soit privilégié. Donc, à chaque instant, à chaque tic d'horloge, on verra les tics d'horloge la fois prochaine, mais en gros, à chaque tic d'horloge, ce truc-là va tourner d'un cran. Donc, au premier cran, c'est lui qui démarre, au deuxième cran, c'est lui, au troisième cran, c'est lui, etc. Donc, à chaque clic de l'horloge, on change. Et ce circuit est hautement cyclique. Ce circuit a un superbe cycle. Je vous le montre à deux, c'est plus simple. Il a un superbe cycle. Mais il est parfaitement bon. Il est parfaitement bon, pourquoi? Parce que, eh bien, parce que le jeton qui est là, il injecte un 1 dans cette porte OU. Donc cette porte OU vaut 1, et ça suffit à couper le cycle. Donc ce cycle, il est coupé par ce registre. Et puis à l'instant d'après, il est coupé dans l'autre sens par ce registre. Il n'est pas coupé au même endroit. Donc à chaque instant, ce cycle n'est pas un vrai cycle, il est coupé, mais pas au même endroit. Alors, ça ne marcherait pas du tout si vous n'aviez pas de registre. Si vous n'aviez pas de registre, ce cycle-là ferait n'importe quoi. Donc ce circuit marche parce qu'il y a un jeton au début et que ce jeton va se balader. D'accord? Alors comment est-ce qu'on sait caractériser? Alors celui-là, si vous voulez le rendre acyclique, c'est très laid. C'est possible, mais c'est super moche. Il est tellement bien comme ça. Alors comment est-ce qu'on reconnaît? Comment est-ce qu'on reconnaît qu'un circuit est bon ou pas? Ben, il y a trois sortes de circuits. Il y a les bons, là je vous en ai montré des bons, on les veut. Il y a les mauvais, on ne les veut pas. X égale X égale non X, ceux-là on ne les veut pas. Et puis il y a les bizarres. Donc la question c'est quand est-ce qu'un circuit se stabilise pour tous les délais, quelle que soit la techno. Hein, ce n'est pas pour un délai donné, c'est pour tous les délais, c'est ça que je veux. Indépendamment de la techno, de toute façon je n'ai pas accès à la techno, moi. Et ça revient à dire comment relier le temps discret de la logique au temps continu d'électricité. Eh bien là, voilà la clé, c'est lui. J'ai déjà montré ici, il s'appelle Hamlet. Il essaye de résoudre l'équation to be égale to be or not to be. Alors en logique classique, to be vaut 1, d'accord, hein. Mais ça ne calcule rien en logique constructive. Parce que pour connaître ce que vaut to be or not to be, il faut savoir ce que vaut to be. Donc ça ne calcule rien. Dans la leçon inaugurale, j'ai changé la phrase, j'ai mis une phrase que je préfère, c'est « les électrons ne sont pas au courant » de la logique classique. La logique classique, x ou non x égale 1, ça veut dire qu'il y a une espèce de communication entre x et non x. On sait détecter, là c'est des variables, mais si on a deux grands arbres, p ou non p égale 1, avec p des très grosses formules, ça veut dire qu'on sait magiquement détecter que p et p, c'est la même formule. Et les électrons, ils ne savent pas faire ça, eux, ils ne savent pas aller plus loin que le bout de leur nez. Donc ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'il fait électriquement, celui-là? Eh bien, pour certains délais, il va se stabiliser, et pour d'autres, pas. Il va osciller. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'il n'est pas calculable en logique constructive et qu'électriquement, il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a des délais pour lesquels il ne stabilise pas. Quel est le théorème? Eh bien, c'est que c'est une équivalence. Alors, c'est un théorème qui est très fort parce qu'il relie deux mondes extrêmement différents. Le monde du continu, ici, calcule 1 électriquement pour tout délai. Donc, vous quantifiez sur des nombres réels. Quantificateur universel sur des nombres réels. Et vrai en logique constructive, vous avez juste des 0 et des 1 et des règles stupides, ces deux choses sont équivalentes. Ça veut dire que la preuve est constructive aussi, c'est-à-dire que je sais calculer les délais qui font que ce circuit va osciller. Et ça, c'est vrai partout, tout le temps. Alors, c'est très intéressant parce que les circuits cycliques, ça apparaît extrêmement naturellement quand on traduit des langages de haut niveau et qu'on fait du partage de ressources, on fabrique très facilement des cycles. Donc ces cycles ne posent aucun problème, ils en posent quand même un. C'est que savoir s'ils sont bons ou pas, à l'aide de ce théorème, il faut calculer si c'est vrai pour toutes les entrées que ce truc est bon en logique constructive. J'expliquerai l'année prochaine comment on fait ça, avec des structures magiques qui s'appellent les BDD, qui sont maintenant anciennes, mais toujours aussi magiques, Binary Decision Diagram, qui font du calcul booléen à très grande échelle. Et on sait le faire, mais c'est cher. Alors, par exemple, chez Dassault, Emmanuel Ledino vous parlera de SRL chez Dassault, eux avaient demandé, parce que quand ils branchaient des modules les uns sur les autres, ils avaient des cycles, ils savaient que ces cycles étaient bons. Ils nous disaient, mais pourquoi vous nous jetez alors qu'on sait qu'ils sont bons? Donc, après ce théorème, on a fait un compilateur qui savait trouver les bons cycles, mais ça coûte quand même très cher. Potentiellement, pire cas exponentiel de savoir ça. Mais l'embêtant, c'est surtout que si on fait les beaux circuits cycliques, comme ceux que je vous ai montrés, et qu'on les donne à un système de synthèse, il vous dit, oh là, moi, je veux bien, tu me fais ça, mais c'est sous ta responsabilité, je ne sais pas calculer le timing. C'est embêtant. Alors, il se trouve que si on n'a pas le timing, c'est embêtant. Il se trouve que l'algorithme qui détecte si c'est bon ou pas, sait aussi calculer le timing. Donc, c'est Sharad Malik qui a introduit ça, de Princeton, et nous, on l'a perfectionné, et cette preuve est de Mendler, Scheipel et moi-même. Alors, cette preuve, elle est très intéressante et c'est une logique temporelle que je ne vous détaille pas du tout ici, mais une logique du temps continu. Je ne vais pas vous la détailler, voilà, tout ça. Hein. On va dire qu'une histoire qui est une trajectoire continue du signal va satisfaire une propriété phi. Les formules, c'est ça, HST satisfait phi. C'est l'histoire satisfait la propriété phi du temps S au temps T. Et voilà les formules de cette logique et elles sont très intéressantes parce que le E et le OU ont l'air symétriques, mais la négation rend tout asymétrique. Et en fait, c'est une logique non constructive du temps réel. Cette fois-ci, c'est une logique qui parle du temps réel. Elle parle en même temps du temps réel et du temps continu. C'est ça qui est très beau dans cette logique. Domaine l'heure, on fera cette preuve. C'est costaud, ça nous occupera un bon coup. Hein. Rien que la preuve. Et ça, ce n'est pas vrai dans cette logique non plus. C'est-à-dire on a une logique du temps réel, au sens des nombres réels, qui n'est pas constructive. Et la preuve, elle est très élégante, la preuve vraiment de Mendler. La preuve de Mendler, c'est de décrire les circuits, le comportement des circuits, y compris les oscillations, les glitches et tout ça, tout se traduit là-dedans. Écrire et de voir que quand on a un circuit constructif, eh bien, on peut enlever toute la partie réelle, on peut l'enlever, la peler petit à petit, et puis à la fin, on n'a plus que la partie booléenne, et c'est une transformation logique correcte du début à la fin. Donc, il n'y a pas un pet de sentiment dans cette preuve. Hein. Alors qu'en hardware, souvent, les preuves, dans les conférences de hardware, quand il y a marqué preuve, j'ai un peu tendance à me méfier. Voilà, donc c'est bien. Et puis voilà, par exemple, on montrera que SRL, langage beaucoup plus compliqué, ici, on a des formules véritablement temporelles pour un programme qui serait exponentiel si on l'écrivait comme d'habitude. Eh bien, on verra, là, je ne vous donne pas le détail, on le verra dans trois cours, que la sémantique d'SRL est également définie par une logique constructive, mais qui est bien plus complexe parce que le langage est plus complexe, mais qu'en disant « nous avons une logique constructive et nous avons une machine automatique qui s'appelle des circuits électroniques qui implémente les logiques constructives, elle n'est même pas au courant, mais ce n'est pas grave, elle le fait », eh bien, on va dire qu'implémenter SRL, c'est simplement se mettre dans la logique et faire un mapping de la logique d'SRL sur la logique des circuits. Donc vous voyez, on est en train de fabriquer des circuits, mais en même temps, on est en train de faire de la logique. Et puis, comment est-ce qu'on va prouver que l'implémentation d'SRL en circuit est bonne? Eh bien, en faisant une preuve métalogique, c'est-à-dire, j'espère bien qu'on va faire ça, qu'on va trouver des étudiants pour faire ça, je me tourne vers les gens qui ont la compétence pour ça, de faire de la métalogique, c'est-à-dire de démontrer dans la logique constructive de Koch que la transformation de la logique constructive d'SRL dans la logique constructive de l'électricité est bonne, retour chariot, une minute de calcul, et c'est torché. D'accord ? C'est ça l'avenir de notre métier. Ce n'est pas de faire des preuves à la main. Ce n'est plus de faire des preuves à la main. Je signale d'ailleurs que Vovotsky, un médaille-fils de mathématiques, a ouvert un labo à Princeton cette année de 34 personnes, je crois, qui est simplement chargé d'étudier ça, comment faire des vraies preuves en maths. Et pas forcément pour tout, hein, les mathématiciens ont raison de faire les preuves comme ils font. Mais en informatique, on s'assoit sur l'informatique, on vole sur l'informatique, et je repose pour terminer ma question standard, c'est si vous programmez l'avion dans lequel vous volez, est-ce que vous montez dedans ? Hein ? C'est ça la question qu'on veut résoudre. C'est la question la plus simple qui soit. Que vous faites les circuits ou que vous faites l'avion, vous programmez l'avion, est-ce que vous montez dedans ? Et est-ce que vous laissez vos enfants monter dedans ? C'est encore pire. Voilà, donc on va... j'avais quelque chose d'autre ? Ah ouais, ben j'en parlerai après, ça, j'en parlerai en même temps que Cyril. Donc, comme il est midi pétante, comme on dit quand on parle de temps, il n'y a aucune conclusion à tout ça, vu que c'est que le début et qu'on ne va sûrement pas conclure dès le début. Envoyez-moi donc vos questions sans hésiter et on en traitera. Hein. Comme les internautes sont à égalité, les internautes aussi, gérard.berry@collegedefrance.fr, les questions seront stockées dans un premier temps, traitées dans un deuxième temps ou laissées ouvertes si elles sont trop dures. Je vous remercie.